divinement aveuglé le son du chemin d'Emmaüs. Lors de l'examen du récit d'Emmaüs dans Luc 24, de nombreuses personnes semblent avoir la même question lancinante. Pourquoi ces deux disciples abattus de Jésus, Yeshua, ne l'ont-ils pas reconnu immédiatement lorsqu'il est tombé sur eux? J'imagine que nous pourrions convenir qu'une reconnaissance immédiate leur aurait sûrement épargné, à tout le moins, une marche de 2 heures jusqu'à Emmaüs. Après tout, un premier moment de reconnaissance aurait probablement suscité la proclamation zélée, « Oubliez Emmaüs, allons maintenant au Cénacle ». Peut-être que certaines personnes, lisant le récit pour la première fois, pourraient supposer qu'il aurait été plus compatissant pour Jésus de révéler son identité au début, surtout parce qu'ils étaient dans un tel désespoir. Le reconnaître immédiatement les aurait sûrement déplacés vers un lieu de réjouissance. C'est d'autant plus vrai que c'est exactement ce qui s'est passé lorsqu'ils ont finalement reconnu Jésus. De retour à Jérusalem, ils ont sprinté pour annoncer leurs expériences avec les autres disciples. En effet, Luc 24:16 déclare que leurs yeux ont été aveuglés, ou ont été littéralement empêchés, de le reconnaître. Cependant, la question est, pourquoi ? Spéculer sur la raison pour laquelle Dieu fait quelque chose de surnaturel nous met toujours sur un terrain dangereux. Je crois que Dieu porte une attention particulière à la façon dont les gens qui prétendent savoir quelque chose partagent ce quelque chose. Cependant, en même temps, dans notre quête de la vérité, je crois aussi qu'il est sain de partager nos réflexions sur des sujets particuliers tant que nous prenons soin de noter que nos théories restent dans le domaine de la pure spéculation. Par conséquent, permettez-moi de spéculer sur la question du type particulier d'aveuglement divin du disciple. Sans aucun doute, Cléopas et son compagnon de voyage ont eu du mal à concilier les événements dont ils ont été témoins avec l'identité de celui qu'ils aimaient et pensaient avoir perdu à jamais. Ils désiraient sincèrement des réponses, une sorte de contexte pour expliquer leur propre questionnement personnel, pourquoi ? Ils avaient une image en tête. Ils savaient ce qu'ils voyaient, ce qu'ils vivaient, et ils essayaient de concilier cela avec leur propre présomption concernant la venue du Messie. Ils ont échangé des mots significatifs et passionnés, mais jusqu'à ce que la parole elle-même marche avec eux, leur échange n'a fait que semer la confusion et le désespoir en eux. Surtout, semble-t-il, lorsqu'ils ont dû expliquer ces événements douloureux à cet indiscret inopiné. Il semble y avoir un peu d'ironie dans leur recherche désespérée de la vérité, alors que la vérité elle-même marchait à leur côté. Pour moi, il y a quelque chose de précieux dans l'image du Christ marchant avec nous dans notre heure la plus sombre, que je ne peux pas ignorer. Très souvent, en tant qu'humains charnels, nous désirons une réponse alors que son désir est que nous ayons la réponse, lui-même. Il sait ce qui est nécessaire pour que nous atteignions ce lieu de joie et de paix en lui. Quel exemple nous avons dans le récit du chemin d'Emmaüs, là où 2 ou plusieurs sont réunis, il est là au milieu d'eux. Lorsque nous raisonnons entre nous sur des questions spirituelles que nous ne comprenons pas, il y a toujours un risque élevé d'hérésie. Pourtant, la parole explique tout. En commençant par Moïse, jusqu'aux prophètes et aux psaumes, nous le trouvons, l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin, le premier et le dernier. Si vous le cherchez à travers sa parole, le Seigneur Dieu sera trouvé par vous. Ce que l'œil naturel ne peut pas voir, l'Esprit le révélera sûrement. Voici ce qu'il ne pouvait pas voir, que le Messie devait souffrir et mourir avant de pouvoir entrer dans sa gloire. Bien que le chagrin soit pour une nuit, il y a de la joie le matin, et ses deux disciples abattus avaient besoin de voir et de vivre cette vérité. À travers leur douleur, ils ne pouvaient pas voir que la souffrance de Jésus se traduirait par leur joie éternelle. Je crois que le Seigneur, dans sa grâce et sa miséricorde, les a empêchés de le reconnaître afin qu'ils aient l'opportunité de voir avec une réelle clarté. Ils avaient besoin de comprendre au moyen de son récit des Écritures le concernant. En vérité, s'il s'était immédiatement révélé à eux, il aurait été évident qu'il était vraiment ressuscité. Cependant, il était impératif qu'ils voient d'abord avec leur cœur et leur esprit avant de le reconnaître avec leurs yeux naturels. Puisque le désir de notre Seigneur est que nous le partagions avec les autres à travers sa parole et non son corps physique, c'est ce qu'ils devaient voir en premier. Ils avaient besoin de voir Yeshua, Jésus le Messie, prédit à travers les Écritures. Dans Jean 20:29, Jésus dit à Thomas, un autre type qui avait besoin d'un peu de clarté, « Parce que tu m'as vu, as-tu cru ? Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. » C'est le sevrage de l'enfant dépendant du fait que la mère est toujours en vue physiquement. Lorsque l'enfant apprend à faire confiance au retour promis par sa mère, il se sent libre de jouer paisiblement dans une autre pièce. Ils savent qu'elle est là même s'ils ne peuvent pas la voir. Ils ont confiance qu'elle répondra en cas de besoin. Ils sont contents et ne manquent de rien. Ils vont librement et joyeusement à leur jeu s'occuper. Ils font confiance sans voir. Peut-être ces hommes avaient-ils besoin de faire confiance à la parole, de Moïse aux prophètes et aux psaumes, avant de compter sur sa présence physique comme preuve de son identité, de son dessein et de sa gloire. Car bientôt, c'était exactement ce qu'ils auraient besoin d'enseigner aux autres affaires, à lui faire confiance par sa parole et non par la manifestation de son corps. Nous, comme les deux disciples sur le chemin d'Emmaüs, avons des chagrins, de la confusion, des désillusions et du désespoir. C'est notre sort en tant qu'individu déchu, vivant parmi d'autres individus déchus. Pourtant, 1 Pierre 1, 6 à 9 est un grand passage pour réaliser la profondeur et la vérité des paroles de Jésus dans Jean 20h29, « En cela vous vous réjouissez grandement, même si maintenant depuis un peu de temps, si nécessaire, vous avez été affligé par diverses épreuves, afin que la preuve de votre foi, étant plus précieuse que l'or qui est périssable, même éprouvée par le feu, puisse aboutir à la louange, à la gloire et à l'honneur à la révélation de Jésus-Christ, et bien que vous ne l'ayez pas vu, vous l'aimez, et bien que vous ne le voyez pas maintenant, mais que vous croyez en lui, vous vous réjouissez grandement avec une joie inexprimable et pleine de gloire, obtenant comme résultat de votre foi le salut de vos âmes. Certaines personnes ont besoin de voir en guise de preuve. Je remercie Dieu d'avoir divinement empêché ces deux hommes abattus de le voir ou de le reconnaître immédiatement, car cela a provoqué une cimentation de leur foi et une transformation radicale de la douleur en une joie inexprimable et pleine de gloire. Et c'est justement ce genre de transformation qui a bouleversé le monde.